Dépose sous les yeux l'interview en partenariat avec la boîte à livres.
Bonjour François-Xavier Lillard, merci de nous recevoir à Radio Béton pour une interview au sujet de votre dernier roman, Fais-le pour maman, paru chez Fleuve Noir. Vous avez été reçu il y a quelques jours par TV Tour, vous serez bientôt à la rencontre de vos lecteurs à la boîte à livres. Donc merci encore de nous recevoir pour Radio Béton et évoquer votre deuxième opus. Alors s'agissant d'un thriller, c'est marqué sur la couverture, je ne voudrais pas faire d'impair et je vous laisserai bien le soin d'abord de me faire un peu le pitch de cette histoire.
En fait, ce livre, il est né d'un fait divers, un fait divers absolument atroce que j'ai lu dans la presse il y a 2 ans maintenant, qui était une mère qui a poignardé sa fille aînée de 12 ans, ce qui peut arriver, soit, mais qui ensuite a demandé à son fils de 6 ans de s'accuser à sa place pour parler en prison. Donc ce fait divers m'a saisi, je me suis dit ça pourrait faire un bon thriller. Donc j'ai fait un roman frissonnant à partir de ce fait divers et j'ai imaginé, j'ai pas raconté le fait divers, hein, les journalistes le font, les magistrats jugent les protagonistes. Moi je me suis dit qu'est-ce qui est devenu ce petit garçon 35 ans après. Il est médecin dans une ville de province, il a 2 petites filles, il est veuf. C'est un médecin réputé, estimé, qui s'occupe beaucoup, sûrement un peu par atavisme, d'enfants malades. Et puis, soudain, 2 de ses jeunes patients qui sont hospitalisés vont mourir dans des circonstances extrêmement mystérieuses. Et une policière, Claire, qui a été mutée, qui a elle aussi un passé un peu compliqué, qui a été mutée dans cette ville, va enquêter, découvrir son passé. Et là, toutes les voies du passé vont surgir autour de mon héros.
Donc on est en plein dans le thriller.
Ouais.
Vous auriez pu prendre un autre fait divers. Qu'est-ce qui vous a orienté vers ce fait divers en particulier? Qu'est-ce qui l'a réveillé en vous?
Il n'a pas réveillé fort heureusement de souvenirs d'enfance. Mais par contre, ce qu'il a réveillé en moi, c'est vraiment l'intérêt de... Dans mon premier roman, il y avait un peu de ça aussi. C'est de se dire qu'est-ce que peut devenir un enfant, une adolescente confrontée à cette violence, confrontée à cette explosion d'une cellule familiale, et comment est-ce qu'on peut vivre ou survivre avec ça, et est-ce qu'on peut y arriver, parce que c'est la vraie question que j'espère les lecteurs, à laquelle les lecteurs auront peut-être une réponse en lisant mon livre, c'est est-ce qu'on peut vraiment se sortir de d'une expérience aussi dramatiquement difficile pour un enfant.
Il y a beaucoup de faiblesses finalement dans les personnages de votre roman, et parce que même le commissaire ou l'inspecteur, je ne me rappelle plus de son grade,
qui est
amené à être impliqué dans cette histoire, a elle-même un passé compliqué, comme vous le dites. Elle a été battue. Donc finalement, on est dans un environnement où rien ne paraît stable. Est-ce que c'est un peu l'image que vous renvoie la société de cette instabilité de toutes parts?
Est-ce qu'il vous arrive, mon cher Vincent, puisque je peux vous appeler Vincent, on se connaît par ailleurs, de regarder les informations? Est-ce que vous trouvez qu'on n'est pas dans un monde un peu compliqué, un peu déstabilisé, un peu déstabilisant? Bien sûr, la réalité que je raconte, c'est pas, et heureusement, la réalité de tout le monde, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que le fait divers que je raconte est vrai. Les femmes battues, malheureusement, ça existe, et ça existe dans toutes les couches de la société. Et cette jeune femme, Claire, qui est une magistrate, qui est une policière, qui est issue d'un milieu extrêmement favorisé, est confrontée elle aussi à ça. Et voilà. Et moi, j'ai pas d'œillères, c'est-à-dire que je sais, que la réalité. Ce qui m'intéresse, après, c'est pas de raconter la réalité. J'espère que j'ai pas fait un roman réaliste. C'est ce qui m'intéresse, c'est d'aller au-delà encore de ce qu'on peut être capable d'entendre, de voir à la télévision ou de lire dans la presse. Et je trouve, et c'est tout ce qui fait la beauté et la passion de l'écriture, que on peut toujours être ému par un reportage, on peut être bouleversé mais quelques instants par quelques images très choc de la télévision. On sera jamais emporté comme on peut l'être en lisant un roman, je crois. On ne sera jamais aussi proche des personnages. Peut-être que le cinéma veut le proposer aussi, mais je crois que la lecture le propose vraiment parce que vous pouvez y mettre vos propres cauchemars, vos propres angoisses, vos propres... Voilà, parce qu'on vous raconte une histoire, mais il y a quand même une part belle à l'imagination dans le roman.
Alors, d'autant plus qu'on parlait de fragilité, mais les protagonistes sont conscients de leur fragilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément, ils ne sont pas naïfs. C'est pas qu'ils se cassent la gueule sans s'apercevoir qu'ils sont en train de se casser la gueule. Ils sont tout à fait conscients de leurs failles, de leurs fêlures. Et c'est ce regard sur eux-mêmes, peut-être, qui crée cette empathie entre le lecteur et les personnages.
Je crois que oui, et je pense que c'est vachement plus intéressant de raconter des héros qui sont conscients de leur propre déchéance ou de leur propre faille. Un héros qui agit, qui n'a pas conscience du fait qu'il est dramatiquement touché, etc., c'est moins prenant, on le sent moins proche de lui, alors qu'un héros qui contemple ses propres fêlures, là, on a la matière à réflexion.
Et c'est peut-être ce qui distingue assez nettement votre second livre du premier, où finalement j'avais trouvé, quand c'était à nouveau un thriller, mais que les personnages étaient plus naïfs par rapport à la vie, beaucoup plus frais, et que finalement il leur tombait des casseroles sur le coin de la figure sans qu'ils les aient vus venir, sans qu'ils aient senti cette fragilité finalement de leur situation.
Mais moi aussi, j'étais beaucoup plus naïf et beaucoup plus frais à l'époque. C'était un roman que j'ai écrit il y a 5 ans. Donc, j'avais écrit une première mouture, une nouvelle, il y a 7 ans, 6-7 ans. Et oui, j'étais sans doute plus... Mais c'est aussi un choix. C'est-à-dire que le premier roman, un vrai jeu d'enfant aux éditions Fleuve Noir aussi, était un... Je ne voulais pas faire un thriller. Il est dans la collection thriller parce que c'est la collection générique des romans noirs du Fleuve. Mais c'est pour moi, c'est pas un thriller, c'est un roman noir où une jeune fille est confrontée d'un seul coup à un basculement complet de sa vie. Elle passe du statut d'étudiante insouciante au statut de victime du grand banditisme. Mais il n'y a pas d'enquête policière, alors que mon second roman, Fait le point maman, est très différent, mais c'est volontaire. C'est que je voulais faire un thriller. Il y a du psychopathe de compète, il y a de l'enfant enfermé dans la cave, il y a du sang, des pleurs, des larmes, des cris, des cauchemars. Et c'est un choix délibéré. Maintenant, évidemment qu'on se laisse emporter par l'écriture, qu'on est contraint par ses personnages, j'en dirai un peu plus après, et que c'est pas non plus... Il y a les codes du thriller, mais c'est mon roman que j'ai écrit, c'est... C'est, j'espère, pas comparable. J'ai pas essayé de pomper Stephen King, etc. Donc c'est forcément différent. Alors, c'est pas forcément un thriller. C'est pas complètement un thriller. C'est peut-être plus qu'un thriller. Mais en tout cas, j'aime ce livre.
Alors justement, parlons de ce genre. Hein. C'est un livre de genre. C'est un genre qui est très pratiqué, très populaire. Directement, votre premier livre, si vous le qualifiez plus de livre noir que The Thriller, il était effectivement sorti chez Fleuve Noir avec cette mention sur la couve, comme Fais-le pour maman, là, qui vient de paraître il y a quelques semaines au Fleuve Noir, toujours comme un thriller. Est-ce que ce genre, finalement, vous était destiné, ou est-ce que finalement ce sont ces codes qui peuvent être une mécanique excitante à manipuler pour un écrivain?
C'est exactement ça, en fait. Moi, j'ai pas beaucoup d'angoisse d'écrivain. Je suis un écrivain pas compliqué. C'est-à-dire que j'écris parce que ça me fait plaisir. Je m'éclate en écrivant. C'est pas une thérapie, je crois pas, peut-être, mais alors, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je peux penser moi. Par contre, j'ai une seule angoisse, c'est que mon lecteur s'ennuie. Voilà, ça c'est ma hantise à chaque fois que je me mets à écrire. Quand je finis un chapitre, je me dis, mais est-ce que ce chapitre, donc je relis, et avec la seule vigilance, c'est il ne faut pas que le lecteur s'embête, il ne faut pas qu'il quitte le livre. Donc, qu'est-ce qui peut le mieux répondre quand on commence, quand on débute comme écrivain, et c'est à ça que j'ai répondu en faisant d'abord un premier roman, un premier policier, puis un thriller, c'est de me dire, c'est avec ce type de roman-là, avec ce genre de roman, qu'il est sûrement le plus simple de capter l'attention du lecteur. Si vous faites un roman... Très philosophique, où il ne se passe rien, d'un type enfermé seul dans une chambre ou dans une grotte qui se raconte, qui raconte sa vie. Alors, soit vous avez énormément de talent et vous arrivez à captiver avec une histoire comme ça, ce qui est possible, certains très grands auteurs le font, soit vous êtes raisonnable, comme je crois l'être, et vous vous dites je vais miser un peu sur mon talent et beaucoup sur la mécanique d'écriture et sur la mécanique du thriller qui se prête parfaitement à retenir l'attention du lecteur.
D'accord. Alors parlons justement un peu de ces codes ou de ce qu'on perçoit dans la façon dont le récit s'architecture. Et qu'on avait déjà dans Un vrai jeu d'enfant, hein, on retrouve un peu ces gimmicks de chapitres très courts et souvent terminés par un dernier paragraphe qui crée le suspens, comme un page-turner qui oblige le lecteur à continuer sa lecture alors qu'il serait bien plus raisonnable d'aller se coucher. Et puis, deuxième gimmick qu'on retrouve aussi dans les deux romans, c'est... Alors, d'une façon beaucoup plus subtile, je trouve, dans le second, c'est de laisser finalement certains personnages, certains protagonistes, devenir les narrateurs de certains chapitres en adaptant le style en conséquence.
Ouais. Alors,
est-ce que vous pouvez nous en dire plus de ces deux pattes hein, qui sont des points communs entre ces deux livres ?
Sur le page-turning et la volonté, effectivement, de finir sur un appel au deuxième chapitre, c'est effectivement une technique que j'ai reprise, qui est une technique connue des Américains. En relisant mon livre de temps en temps, je me dis que dans le troisième, ça sera moins visible, parce que ça fait un peu mécanique. J'ai pas envie que ça fasse ça, même si ça fonctionne. Les lecteurs me disent que ça fonctionne, c'est-à-dire que effectivement, ils enfilent les chapitres, c'est des chapitres courts, etc. Après, sur la technique narrative de faire de mes personnages des narrateurs, alors c'était la structure complète d'un vrai jeu d'enfant. Et alors, je me suis dit, c'était pareil, toujours la hantise de pas ennuyer le lecteur. Je me suis dit, le plus simple, c'est de faire raconter chaque chapitre par un des personnages clés, parce que comme ça, on aura des points de vue narratifs différents. Etc. Je crois que ça fonctionne, mais je crois surtout que ça a été super compliqué à écrire. Parce que, évidemment, quand trois personnes racontent vivent la même scène, il faut qu'ils la racontent différemment si on ne veut pas ennuyer le lecteur. Donc voilà, donc je sais que ça fonctionne, donc je l'utilise. Ça me donne aussi, moi, la possibilité de me rapprocher plus de mes personnages. Parce que quand je fais l'un de mes personnages un narrateur, je me mets dans sa peau. Et ça me donne l'occasion aussi de dire que... Il y a une chose très étrange qui arrive quand on écrit, c'est que moi, avant de faire ce métier d'écrivain, si c'est un métier, c'est pas mon seul métier, mais avant en tout cas d'écrire sérieusement, voilà, je serais chargé le terme, quand un écrivain disait que ses héros prenaient vie et qu'ils perdaient le contrôle, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette foutaise ? Je me disais, mais ils sont graves, les mecs, ils doivent raconter des trucs pareils. Là. C'est eux qui écrivent, ils choisissent. Alors qu'en fait, c'est parfaitement logique. C'est que vous créez un personnage, si vous le créez bien, il a son propre caractère, il a ses pulsions, en tout cas pour les miens dans Fais-le pour maman, il a son passé et il réagira forcément de telle ou telle manière devant une situation. Et donc, vous ne pouvez pas le faire réagir autrement, sinon vous n'êtes pas suivi par vos lecteurs qui disent c'est pas possible qu'il fasse ça, ils l'ont suivi. Ça. Donc, effectivement, vous êtes prisonnier des personnages que vous avez créés, puisque effectivement, ils réagissent. Avec le caractère que vous leur avez forgé. Donc, c'est un peu vrai que vous perdez le contrôle. Et c'est génial parce qu'en même temps, j'ai écrit dans ce bouquin des scènes que je ne pensais pas être capable d'écrire. Ce sont des scènes extrêmement dures, extrêmement difficiles. Et je ne voyais pas écrire ça. Mais quand vous racontez une scène dans laquelle quelqu'un d'extrêmement perturbé fait quelque chose d'extrêmement terrible, vous êtes dedans et vous y allez à fond et vous vous dites après, quand vous avez fini d'écrire, allez, quand même elle a fait ça. Oui, il a fait ça.
Alors c'est vrai que dans le second, donc dans Fais-le pour maman, cette technique de donner la narration à un des personnages du livre est moins fréquente et je trouve justement bien distillée et permet des respirations, des contre-champs et que à la fin du premier roman, pour ma part, mais c'est tout à fait personnel, ça m'avait un peu fatigué parce que ça nécessitait une reconcentration et que finalement l'accès au récit, je pense, est plus confortable dans le second livre. Alors, vous disiez tout à l'heure que voilà, un des soucis principaux, c'est de faire en sorte que le lecteur ne s'ennuie pas en lisant le livre et qu'il ait même envie de continuer à ne faire que ça, à tourner les pages les unes après les autres. Le livre fait un buzz assez agréable pour vous, je suppose, sur la toile. Vous avez été récemment au Salon du Livre. On parlait en début d'interview des rendez-vous que vous allez avoir avec le public, les lecteurs de la boîte à livres prochainement. Alors, cette rencontre avec le public pour un jeune écrivain ou un écrivain débutant ou enfin voilà dans ses premiers dans ses premières longueurs.
Je préfère jeune écrivain.
Jeune écrivain, ouais, même si
même, même si c'est pareil.
Moi j'ai l'image donc.
je te remercie.
C'est voilà, est-ce qu'on est ému comme un premier rendez-vous? Qu'est-ce que ça fait de rencontrer ces lecteurs?
Pour moi, mais c'est pas le cas pour tous les écrivains. Pour moi, c'est absolument génial. J'adore faire ça. J'adore aller à la rencontre de mes lecteurs. J'adore. C'est un exercice passionnant parce que vous avez quelques minutes pour apprendre à connaître quelqu'un. Parce que quand je fais une dédicace, j'essaye de la faire, de faire en sorte qu'elle soit une dédicace personnalisée, qu'elle fasse plaisir à mon lecteur. Et pour que ça lui fasse plaisir, il faut qu'il me raconte un peu de sa vie. Donc je croise. C'était le cas au Salon du Livre à Paris, notamment, ou au Salon de Provins où j'étais la semaine dernière. Quand vous commencez à avoir un peu de monde, parce qu'effectivement ce livre fait du buzz, donc les gens viennent pour. Vous avez quelques minutes pour faire des rencontres. J'adore. C'est un speed dating incroyable, sans arrière-pensée en plus. Parce que c'est quand même ça le plus sympa.
Intéressé
parce qu'on a envie que le lecteur garde un bon souvenir, en se disant, parce que c'est important quand le lecteur vous rencontre et qu'il vous trouve sympa, et après il le dit d'abord, il dit allez le voir en signature, c'est un type sympa, et puis moi j'ai envie que ça se passe bien, parce que sinon c'est vite très pénible, hein, des signatures, si vous faites la gueule et que je connais pas d'auteur à qui ça plaît pas.
Je suis allé me promener sur votre page Facebook et j'ai vu l'importance que vous prêtez à la blogosphère, heureusement pour vous, hein, et bravo, donne des bons échos de votre second livre. Là aussi, vous avez un rôle actif de remerciement.
Voilà. C'est la moindre des choses parce que les blogueurs littéraires font un job absolument formidable. D'abord, ils lisent, je ne sais pas comment ils font, parce qu'ils lisent plein de bouquins. Ils prennent le temps de faire des chroniques qui sont, dans la plupart du temps, et même toutes celles que j'ai vues, sont des vraies chroniques littéraires. C'est vrai que c'est un vrai boulot d'écriture. Ils vous permettent d'avoir des retours très très rapide, ce que les journalistes ne font pas parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont des contraintes de bouclage, de machin, etc. Et donc vous avez, moi ce roman, avant même qu'il ne sorte, j'avais déjà une dizaine de chroniques de blogueurs avant sa sortie. C'est absolument génial, parce que je savais qu'il était déjà bien reçu, que les gens aimaient ce livre, que ça leur avait fait plaisir, que... Et je reçois, et c'est, Facebook c'est génial pour ça, parce que sur Facebook je reçois des messages Facebook. Il n'y a pas très longtemps j'ai reçu un message d'une libraire de la FNAC qui disait « Votre bouquin m'aide à supporter les traumatismes que j'ai moi-même traversés, merci beaucoup ». Voilà, ça c'est un truc qu'on n'avait pas avant. De toute façon, je veux dire, Internet a tout changé pour les écrivains. Non seulement ça change parce qu'on a des retours immédiats et qu'on peut dialoguer avec ses lecteurs, mais ça change aussi parce que le travail de recherche sur un livre, il est extrêmement facilité. Enfin, je veux dire, moi, si demain je vais écrire un livre sur une ruelle de Londres, je vais sur Internet, je peux l'avoir, j'ai Google pour ça. Si j'ai un souci technique sur la manière dont un tueur va pouvoir, je sais pas moi, achever un plan, etc., je vais sur Internet, je peux trouver la solution. En même temps, je fais pas qu'Internet parce que pour ce livre, par exemple, je suis allé rencontrer des pédopsychiatres, un de mes amis notamment qui est pédopsychiatre. Je suis allé rencontrer une amie avocate qui fait des gardes à vue, donc qui m'a raconté, etc. Et ça, c'est hyper important pour donner. Sauf que, je m'en excuse dans ce livre auprès d'eux, à la fois je les remercie, à la fois je leur demande de m'excuser, c'est que j'ai un peu explosé les codes et que je respecte pas toujours ce qu'ils me disent. Parce que c'est ça la vraie liberté de l'écrivain, et heureusement qu'on respecte pas complètement tout ce qui se dit. Donc quand le pédopsychiatre me dit le tableau clinique que tu proposes pour cet enfant n'est pas tout à fait conforme avec les théories qu'on a développées, je dis ouais, mais d'un point de vue romanesque c'est vachement mieux. Donc je prends plutôt le choix du romanesque.
Ok, je change de sujet et je retourne votre livre, les deux d'ailleurs, et qu'est-ce qu'on voit, c'est que...
Belle photo.
Ouais, bien, magnifique. C'est que vous faites autre chose dans la vie que d'écrire, ouais. et vous avouez même que vous travaillez dans un grand groupe énergétique. Bon, y a rien de honteux à ça, d'autres le font très bien. Donc vous avez, je le sais, des responsabilités dans cette entreprise. Je sais aussi que vous avez une famille, des enfants, mais donc... Quelle place a l'écriture dans votre vie? Comment faites-vous pour... Voilà, produire tout en essayant d'être présent à côté.
Alors, j'ai d'abord une épouse vraiment sympa et vraiment compréhensive qui aime ce que je fais et qui est très contente que j'écrive parce que elle sent que c'est important pour moi et qui donc me permet d'avoir un peu de temps pour écrire, mais me demande aussi de consacrer du temps à mes enfants et de lui consacrer du temps, ce qui est normal. Donc, j'écris souvent dans les transports. Quand je prends le train, je dors pas très beaucoup, donc j'écris parfois la nuit. J'écris souvent en vacances, voilà. Et je sais que pour finir sur, alors j'écris très vite en même temps, donc ça c'est un avantage. Mais c'est-à-dire que je peux écrire, voilà, je peux écrire un chapitre en 2 heures, voilà, ou 2 chapitres en 3 heures, c'est possible de le faire. Alors, je sais pas toujours bien, mais parfois c'est bien, donc ça c'est vachement utile. Et puis pour finir ce deuxième roman, par exemple, je me suis exilé une semaine chez mes beaux-parents qui n'étaient pas là, donc il n'y avait que mon beau-père, et j'ai écrit 10 heures par jour. Voilà, parce que et j'ai trouvé plein de trucs voilà, qui sont qu'on trouve que si on se plonge vraiment dans un manuscrit. Mon éditrice, qui est une éditrice formidable, m'avait dit écoute, ton roman, il y a vraiment quelque chose, mais il faut que tu t'y mettes sérieusement, voilà, parce que j'écrivais un peu en dilettante comme ça quand j'avais le temps. Elle me dit, il faut que tu reprennes, tu y vas et tu t'enfermes et tu écris. Et c'est là que j'ai trouvé un des dénouements, c'est là que j'ai reconstruit, c'est là que j'ai inventé Léa comme je voulais qu'elle soit, c'est là qui est la fille du héros. Voilà, c'est j'écris vite, j'écris quand je peux, mais parfois, quand il faut, je sais aussi me dire qu'il faut que je me mette à. Parce que c'est pas un boulot de dilettante, l'écriture, finalement.
D'accord. Donc le prochain est déjà
Ouais.
entamé.
Le prochain est déjà commencé. Le prochain est un livre qui me tient à cœur parce que c'est un livre que je vais coécrire avec une de mes amies. C'est un livre qui va être à la fois un thriller, mais qui va être aussi un roman d'anticipation, un roman politique. Ça va se passer dans le Paris d'après la grande crue qui va nous arriver sur le coin de la gueule très prochainement. Dans un Paris d'un peu dévasté, le gouvernement a quitté Paris, est à Vincennes. Les grands musées ont été dévastés. Il y a un trafic d'œuvres d'art dans Paris, puisque en évacuant toutes les grandes œuvres, il y en a certaines qui sont perdues. Et dans ce tableau un peu chaotique, certaines personnalités du showbiz vont être retrouvées mortes et nucléées dans leur suite d'hôtel. Et le point commun, c'est qu'elles auront toutes été passées, elles seront toutes passées au Louvre avant de mourir. Et voilà. Et donc, comme cette chère amie Anne-Laure, avec qui j'écris, est la directrice des relations extérieures de la communication du Louvre, voilà, on aura de la matière, on aura du. Et qu'elle a du talent, je pense que ça fera un beau bouquin. Donc voilà, une belle nouvelle aventure qui va, voilà, qui va, j'espère. Mais pour l'instant, là, je vis pleinement le lancement de ce livre, qui commence bien, qui a des très bons échos, et les libraires me font confiance, et ça, c'est énorme, parce que c'est vraiment. Moi, quand j'ai commencé à écrire, j'ai dit à mon éditeur, bon, j'espère que je vais être à la Fnac, que je vais être chez Carrefour. Elle me dit, tu sais, c'est. J'aime beaucoup les libraires de la Fnac, qui sont des vrais libraires pour la plupart, mais elle me dit c'est d'abord les libraires de quartier qui vendent. C'est eux qui créent des écrivains, c'est eux qui fabriquent des écrivains, et c'est vrai, et ils le font avec beaucoup de talent. Je les ai rencontrés au Salon du Livre de Paris, à la matinée qui était réservée aux libraires, et l'enthousiasme qu'ils ont pour les livres et les auteurs, voilà, et le moteur qui leur permet de tenir et de faire des miracles, c'est-à-dire de vendre encore des livres aujourd'hui.
Bon, j'espère que la prochaine rencontre à la boîte à livres pourra confirmer cet état de fait. Sur Radio Béton, on a eu une excellente émission qui s'appelle Des poches sous les yeux. Et là, elle ne chronique que des livres de poche. Donc, à quand un livre de François-Xavier Dillard en livre de poche?
Alors, ce livre que vous avez entre les mains, mon cher Vincent, Fais le point amant, a déjà été signé par Pocket, voilà, qu'il sortira en poche l'année prochaine. Le premier, je pense, verra un jour aussi un destin en poche. Et j'espère pouvoir être invité aux poches sous les yeux pour pouvoir répondre à vos questions sur mes livres de poche. Mais c'est les mêmes livres, hein.
Très bien, on verra, on vous recontactera très prochainement. En tout cas,
Ah,
François-Xavier
allez.
Dillard, merci beaucoup de nous avoir réservé du temps et de nous parler de Fais-le pour maman, paru au Fleuve Noir, donc un thriller captivant qui vous permettra de combler vos nuits blanches. Merci beaucoup.
Merci, Vincent.
C'était l'interview des poches sous les yeux en partenariat avec la boîte à livres. Retrouvez cette interview sur radiobeton.com, despochessousleyeux.fr ou encore la page Facebook des poches sous les yeux.